L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Ça y est, la carte scolaire pour 2026-2027 est entérinée et en Sarthe, ce sont 37 classes qui sont fermées pour 4 ouvertures de classes. Selon la direction des services départementaux de l'éducation nationale, ces fermetures répondent à une baisse du nombre d'élèves. Entre 2025 et 2026, le département avait perdu 888 de ses un peu plus de 40 000 élèves. Mais cette nouvelle carte scolaire suscite la colère des syndicats enseignants, mais également de la FCPE, Fédération des parents d'élèves, qui considère que l'État abandonne ses enfants. Bonjour Fabien Esteliano.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la FCPE 72. Vous allez nous expliquer pourquoi la FCPE considère cette nouvelle carte scolaire injustifiée. D'abord, rappelons qu'initialement, c'était bien 42 fermetures de classes qui étaient prévues. La directrice académique Dominique Poglio est finalement descendue à 37. Ça n'est pas un effort suffisant ?
Ah non, pas du tout. On est sur 100 classes de fermées en 3 ans, donc on est vraiment loin d'être sur ce système suffisant. Et puis, il faut dire la vérité, quand on dit qu'il y a eu 4 ouvertures, il y a près du double d'écoles où il y a plus d'élèves et on n'a pas fait d'ouverture. Donc non, on aurait mérité d'avoir beaucoup, beaucoup plus d'ouvertures et vraiment beaucoup moins de fermetures. Il y a des écoles où on ferme une classe alors qu'il y a plus d'élèves à la rentrée qu'à la rentrée dernière.
Et vous employez des mots très forts quand même à la FCPE. Vous parlez d'abandon de l'État. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par abandon de l'État en fait ?
On est persuadé que Madame Poglio, au travers de son travail localement, essaie de faire avec les chiffres et avec les postes qu'on lui donne. Mais c'est nationalement qu'on lui a pas donné assez de postes pour pouvoir répartir et laisser des classes en situation. Donc c'est ça l'idée. On n'a pas envie de diriger notre courroux envers la représentante localement, mais vraiment envers les choix qui ont été faits politiquement de faire qu'il y ait moins de personnel enseignant dans nos écoles.
Alors, on constate quand même que le nombre d'élèves enceintes, globalement, il baisse. Donc, il peut sembler quand même logique de fermer des classes. Le nombre de classes fermées, est-ce qu'il est disproportionné par rapport à la baisse du nombre d'élèves ?
Il faut vraiment se rendre compte qu'on est, avec des résultats aujourd'hui en France où on ne peut même plus réfléchir de manière budgétaire. On ne peut plus se dire « Ah, nous sommes tellement bons dans nos écoles et dans nos résultats internationaux qu'on peut que notre école puisse être juste au même niveau demain qu'elle est aujourd'hui. » Non, il faut absolument que demain notre école soit meilleure qu'aujourd'hui parce que les résultats sont dramatiquement bas.
C'est juste une question de résultats ?
C'est aussi une question de résultats, c'est aussi une question humaine, c'est aussi une question où il faut que les adultes qui sont dans nos établissements scolaires puissent rester, sont des personnes qui puissent entourer nos enfants. Donc non, il y a évidemment, c'est plein de réponses, mais c'est aussi une réponse véritablement sur le niveau scolaire qu'on veut pour une nation. Et on pense qu'on est un pays riche et on doit pouvoir investir dans l'avenir.
Oui, parce que des fermetures de classes, ça implique des classes plus chargées. C'est un problème déjà pour les enseignants. Mais alors, à vous entendre, c'est aussi un impact directement sur les élèves.
Ah mais c'est évident, plus on a d'élèves par classe, plus c'est difficile évidemment pour qu'ils apprennent. Et puis un truc tout bête, nous parents, lorsqu'on dépose notre enfant le matin à l'école, s'il y a 4 classes sur lesquelles répartir nos enfants lorsqu'il y a un enseignant absent, c'est pas la même chose que de répartir sur 5 classes. C'est beaucoup plus facile de répartir 25 élèves sur 5 classes que sur 4 classes. Ça fait une marge énorme. Donc il y a plein de petites choses au quotidien qui vont changer avec cela. Et puis c'est aussi au sein des établissements, des directions qui seront moins présentes pour nous. Lorsqu'on doit faire les inscriptions, lorsqu'il nous faudra faire tous les papiers, tout comprendre mieux l'école, on aura du mal à avoir un référent dans les établissements parce que les enseignants seront moins présents ou les directeurs ou directrices seront moins présentes.
Est-ce que c'est important davantage peut-être que dans le secondaire et même dans les études supérieures qu'à l'école, il continue d'y avoir justement un référent pour les élèves, qu'il y ait un nombre restreint d'élèves par professeur, entre guillemets, par enseignant ?
C'est impressionnant de voir combien la France reste un pays qui est sur le plan économique reconnu, mais sur le plan éducatif, on voit bien qu'on est dans les derniers de l'OCDE, dans les derniers pays, on va dire, développés, on est dans les derniers sur l'encadrement. Donc on sent bien qu'on est en train de dégrader, et les résultats internationaux le prouvent, on est en train de dégrader notre système éducatif, et c'est vrai que c'est chez les plus jeunes qu'il va falloir redévelopper un petit peu la reconnaissance aussi d'un système, que la culture serve à quelque chose. Et lorsqu'on a des décisions politiques qui montrent que la culture n'est pas utile, ça pose problème.
La FCPE a publié un communiqué qui met l'accent sur une dimension d'injustice sociale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que vous voulez dire par là que les réseaux d'éducation prioritaire sont particulièrement touchés ou pas forcément ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par cette injustice sociale ?
Non, exactement, vous avez raison. Hein. C'est-à-dire que les écoles où les familles sont les plus modestes sont très touchées par les calculs de cette carte scolaire cette année. C'est-à-dire qu'on a des écoles en éducation prioritaire qui ont qui sont énormément touchés par cela. C'est le cas dans le sud du Mans, c'est le cas à Allonne, mais c'est aussi le cas ailleurs. Et puis, dans nos zones rurales, on a aussi des écoles qui ont beaucoup de familles modestes et qui doivent supporter aussi des fermetures. C'est par exemple le cas à La Flèche, où on a, dans cette école maternelle, 50% de familles modestes, et pourtant, on fait une fermeture comme ça pour quelques élèves en moins, ou pour juste, en réalité, mais c'est pas toujours quelques élèves en moins, c'est aussi pour dire... on n'a pas assez d'enseignants à vous mettre parce qu'on a décidé de ne pas les remplacer.
Alors effectivement, il y a eu de nombreuses fermetures de classes dans de nombreuses communes rurales. Pour prendre un exemple, à Verneuil-le-Chétif et Saint-Jean-de-la-Motte, donc sur ces deux communes, deux écoles et deux classes fermées pour trois enfants en moins en tout. Est-ce qu'il y a une tendance à réduire davantage les petites écoles ?
Alors, on sent vraiment que cette année, nationalement, on n'a pas entendu le fait que la ruralité était très importante. Alors, on nous a donné quelques bouts de ficelle, quelques petits bouts de miettes de ce qui pouvait rester du budget. Et donc, on nous dit, oui, on n'a pas fermé toutes les classes qui auraient pu être fermées en zone rurale. Mais il y a énormément de classes en zone rurale qui sont fermées et qui le sont uniquement parce que il fallait trouver des écoles sur lesquelles agir. Et il y a des écoles sur lesquelles on agit alors qu'il n'y a que très très peu d'élèves en moins. Et comme vous le disiez, on a un ensemble d'une douzaine d'écoles sur lesquelles ça bouge à la marge. On a même des écoles où il y a un élève de plus et on ferme une classe parce qu'on a bien compris qu'on avait besoin d'argent dans le budget et on n'a pas besoin de réfléchir à l'avenir de nos jeunes. C'est assez flippant.
Et du coup, quel impact sur le parcours scolaire de ces enfants ? Parce que vous disiez que ça a un impact en tout cas sur les résultats, mais de fait, ça devient compliqué de les faire redoubler justement par ce manque d'effectifs d'enseignants, le fait qu'il faut aérer le plus possible les classes et ne pas garder d'élèves d'une année sur l'autre.
Alors, sur la question du redoublement, c'est une vraie interrogation sur laquelle la FCPE est plutôt assez favorable au fait qu'on puisse quand même avancer dans la scolarité si on est bien entouré. Et la grosse difficulté, c'est que pour éviter les échecs, il faut être bien entouré. Les réseaux d'aide, le RASED, les réseaux d'aide dans l'éducation, qui sont des réseaux d'aide où la réflexion, elle est faite sur l'éducation populaire et elle est faite sur le travail psychologique, là, ils ne peuvent plus exister. Donc on réclame depuis des années une augmentation du nombre de RASED qui permettrait d'éviter justement des maintiens ou des redoublements.
Le RASED, on rappelle que c'est un réseau d'éducateurs spécialisés qui prennent en charge des enfants individuellement sur des temps individuels.
Voilà. Et ces RASED-là, par exemple, ont été parfaitement abandonnés depuis plusieurs années dans notre département et puis nationalement également. Et je crois que c'est cela la réalité, c'est que plus on aide les jeunes tôt, plus ça se passera bien plus tard pour eux. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans un abandon et on veut le dire, il y a eu un abandon et on n'a pas entendu de réponse à cela pour l'instant.
Pour donner un autre exemple, dans l'Ouest France, une élue syndicale donne un exemple assez parlant à Dissé sous Sourcillon. Il va y avoir une classe de grande section CP-CE2 à 29 élèves. Est-ce que c'est ce type de classe où les parents redoutent de voir atterrir leurs enfants ?
Oui, voilà, exactement. On a des sauts comme ça qui se font de classes pour pouvoir remplir. Et puis, on a des classes super chargées. Vraiment sur ce modèle-là, avec plusieurs niveaux, des niveaux multiples et des niveaux parfois incohérents.
Et concrètement, comment ça se passe dans une classe grande section CP-CE2 ? Comment c'est possible ? Comment ça fonctionne ?
Ah, mais c'est l'enseignant ou l'enseignante doit réussir à pouvoir mettre les enfants en activité pour pouvoir leur permettre de chacun avoir une avancée. Mais la réalité, c'est qu'à trois niveaux, l'enseignant, surtout de la grande section et du CE2, ça n'a plus rien à voir. Mais même dans la pratique de l'âge de nos enfants, ils n'ont pas du tout la même autonomie. Et puis en plus, sur la capacité, si on a des gamins en difficulté en CE2, comment on peut les aider, sachant qu'il faut aller gérer des gamins de grande section. C'est des tout petits. Et à cela, on rajoute un autre problème, c'est que dans ces classes-là, parfois, on a aussi des AESH qui vont se glisser, c'est-à-dire des adultes supplémentaires. Et ça veut dire des grosses difficultés. Vous parliez des syndicats, ils ont également, lors du conseil départemental de l'éducation nationale, ils ont rappelé des situations comme, je crois que c'est à Souligné Flacé, où il va y avoir pareil des classes multiples avec des nombres très très élevés d'enfants par classe. Et cette incohérence que vous racontiez pour 2027.
La FCPE s'inquiète aussi de l'instruction des moins de 3 ans, avec la baisse des très petites sections dans le département. Vous parlez même d'un angle mort. On rappelle que la très petite section n'est pas une étape obligatoire de la scolarité, puisque l'école n'est obligatoire qu'à partir de 3 ans. Pourquoi c'est malgré tout un sujet d'inquiétude alors ?
Parce qu'on a bien vu qu'à partir du moment où les enfants sont scolarisés tôt, et qu'ils comprennent le dispositif de la vie collective, de la vie en communauté, ils arrivent mieux à réussir ensuite. Aujourd'hui, les très petites sections sont accordées dans 2 territoires, des territoires ruraux et des territoires d'éducation prioritaire. Nous, ce que l'on veut, c'est que chaque école puisse avoir des très petites sections, parce que c'est essentiel. Alors aujourd'hui, justement, dans la carte scolaire, on nous ouvre des postes de référence sur la très petite section, alors même que depuis des années, il y a de moins en moins d'élèves en très petite section qui sont scolarisés. Donc là, on sent bien qu'il y a une sorte de hiatus, de mensonge collectif. Et puis, dans l'autre sens, ce que vous disiez des données d'obligation, la scolarité n'était pas obligatoire il y a encore quelques années, avant 6 ans. Et on sait que c'est... donc maintenant, ça l'est devenu. On sait combien c'est important de préparer la suite et de préparer la modernité. Et nous, la modernité, on pense que c'est avoir tout un processus où le pouvoir public se mêle ou permet aux familles de pouvoir avoir une scolarité et un accompagnement depuis le plus jeune âge. Donc évidemment avant 3 ans, mais bien avant aussi.
Et alors pour terminer donc, sur ces fermetures de classes, que demande la FCPE concrètement ? Est-ce qu'il s'agit simplement de retrouver les classes perdues ou bien vous demandez un projet plus ambitieux pour les écoles sartoises ?
Alors là, ce qui est très simple, c'est que nous, on va continuer nos mobilisations. Le jeudi 28, dans quelques temps, on va, le 28 mai, on va se mobiliser à fond aussi dans quelques écoles. Et puis l'idée, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on arrête pleinement les fermetures, qu'il n'y ait aucune de ces fermetures. Si on n'avait aucune fermeture, dans les 10 ans à venir, on passerait de ce dernier pays de l'OCDE en nombre d'enseignants par élève, par classe, à le pays plutôt dans la moyenne bonne. Donc on ne va pas non plus révolutionner, on ne va pas être le meilleur pays, on va être juste dans les meilleurs pays. Donc c'est faisable, il faut juste arrêter de fermer des postes, de fermer des classes et juste réutiliser ces postes dans un processus de rééquilibrage de maintien pour toutes les écoles, donc toutes les écoles avec moins d'élèves.
Je vous remercie Fabien Esteliano, vice-président de la FCPE 72. Merci beaucoup.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.